VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Conakry, 14h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Cameroun, toujours pas d'explication claire au sujet du mystère des enlèvements d'enfants à Bamenda, chef-lieu de la région anglophone du Nord-Ouest. Selon l'AFP, 90 élèves d'une même école ont été kidnappés puis libérés en 5 jours dans 2 enlèvements distincts. Des actions sans précédent dans un pays où les régions anglophones sont en proie à un conflit entre les forces gouvernementales camerounaises et les séparatistes armés depuis un an. Mercredi 31 octobre, 11 élèves de l'institution ont été enlevés, a expliqué l'église presbytérienne en charge du collège de Nkwen dans la périphérie de Bamenda. Ce premier enlèvement n'avait pas été révélé en raison de négociations en cours avec les ravisseurs, selon une source proche de l'établissement. Les élèves ont depuis été libérés, affirme l'église presbytérienne. Quelques jours plus tard, lundi, 79 élèves ont de nouveau été enlevés dans cette même école. Ce sont les otages dont les autorités camerounaises ont annoncé mercredi matin la libération. Le déroulé des événements, l'identité des ravisseurs et les conditions de libération de ces élèves restent floues. Au total, plus de 700 élèves étudient à l'école presbytérienne de Coen, des enfants reflétant toutes les origines religieuses et linguistiques du Cameroun. À Madagascar, les électeurs votent dans le calme ce mercredi pour le premier tour de la présidentielle, élection dominée par 3 ex-chefs d'État, au cœur des crises politiques qui ont secoué la grande île ces dernières années. À la mi-journée, le taux de participation était de 40% dans la capitale Antananarive, a annoncé le ministre de l'Intérieur, qui a précisé qu'aucun incident n'a pour l'instant été signalé dans le pays. Les bureaux de vote doivent fermer à 14h temps universel, 17h heure locale, soit dans environ une heure. Les premiers résultats provisoires et très partiels sont attendus d'ici vendredi matin, mais la proclamation des résultats officiels est prévue le 28 novembre. À Madagascar, pays où 91% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour, un électeur explique comment pour lui, le futur gouvernement qui doit diriger l'île après les élections devrait améliorer l'économie nationale. Plus de détails avec Irénée Herman Ungbo.
Quel que soit le vainqueur de la prochaine présidentielle malgache, Joseph Rodolphe Solo souhaite qu'il crée des emplois dans un pays déchiré par la pauvreté malgré ses ressources. Solo n'a que 20 ans. En journée, il effectue de petits travaux dans le secteur de la construction et travaille comme cuisinier le soir afin de pouvoir joindre les deux bouts.
Je viens ici tous les matins et le soir je vague à d'autres jobs puisque je ne gagne pas assez d'argent en tant que constructeur. Le coût de la vie augmente constamment.
Comme beaucoup d'autres malgaches, il veut d'un leader capable de changer la vie des jeunes. Durant la campagne, les 3 principaux candidats, R. Rajomanapiam et ses 2 principaux concurrents, Marc Ravalomanan et Ange Radjoel, ont parcouru le pays avec des promesses électorales ambitieuses. Bien que la stabilité politique relative observée depuis les élections de 2013 ait permis une reprise de l'économie, la majorité des 25 millions d'habitants de l'île vivent en dessous du seuil de pauvreté. Clémence Oliga est une jeune fille de 18 ans sans emploi.
J'ai dû arrêter d'aller à l'école pour me trouver un travail à faire parce que mes parents ne pouvaient plus me payer les frais de scolarité.
Le vainqueur de la présidentielle a donc l'obligation de répondre, entre autres, aux préoccupations de la jeunesse avec des actes concrets, indique Joseph Rodolphe Solo.
La vie est souvent plus difficile avec chaque nouveau président, c'est pourquoi je vais voter, espérant que nous aurons non seulement un bon président, mais surtout quelqu'un avec une vision pour les jeunes.
33 autres candidats sont en liste pour cette présidentielle malgache, mais très peu parmi eux ont de l'influence ou encore de l'argent en vue de conquérir l'électorat de l'île sur la base d'un programme crédible capable de sortir le pays de son gouffre économique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Élection de mi-mandat aux États-Unis mardi, au scrutin législatif au niveau fédéral à Washington. Les démocrates ont repris hier le contrôle de la Chambre des représentants du Congrès, mais les républicains gardent le contrôle du Sénat. Un résultat mitigé selon les experts qui qualifient ces élections de référendum sur les deux premières années du président Donald Trump à la Maison-Blanche. L'explication de Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines.
Pour le politique intérieur, je crois que ça va changer maintenant parce que Trump a voulu supprimer tous les renseignements difficiles pour lui, surtout sur la question de coopération avec les Russes dans les élections de 2016. Il y a un procureur spécial qui s'appelle Mueller qui est en train de faire une enquête sur la coopération avec les Russes pour changer l'élection de 2016, pour influencer l'élection de 2016. Et c'est possible qu'il va trouver que c'était les Russes qui ont fait gagner Trump. Donc c'est un grand danger pour président Trump et aussi pour sa famille, parce qu'il paraît que sa famille et sa société d'immobilier a accepté de l'argent argent qui était blanchi venant de Russie à travers le Chypre. Donc tout ça peut voir la lumière du jour. Donc ce sera très dangereux pour Trump dans les deux prochaines années s'il veut se représenter pour un deuxième mandat. Ce sera très difficile pour lui.
Pour le professeur Edgar Colley de l'Université de Monterey en Californie, les deux prochaines années vont donc être difficiles pour le président Trump qui aura affaire à une Chambre des représentants au Congrès dominée par l'opposition démocrate.
Les démocrates vont se pencher de très près sur évidemment ce qui s'est passé à l'hôtel de Trump à Washington DC, n'est-ce pas, ses impôts et beaucoup d'autres choses qui semblaient être acceptées par les républicains qui contrôlaient bien entendu le Sénat et la Chambre des représentants. Et donc, avec cette nouvelle opposition, il va y avoir, n'est-ce pas, une recherche d'une certaine lumière dans les affaires opaques, ou du moins supposées opaques, du président Trump. Donc nous aurons à partir de janvier 2019, n'est-ce pas, une opposition réelle qui se voudrait crédible, donc qui voudra jouer un rôle dans le contrôle de l'action du président. Donc je pense que M. Schiff et ses collègues vont fondamentalement, n'est-ce pas, essayer de voir un peu plus clair ce qui a été jusqu'ici caché, si vous voulez utiliser cette expression, par le président.
Le professeur Souleymane Béchir Diagne de l'Université Columbia de New York prédit même un véritable bras de fer entre le président Trump et la Chambre des représentants, nouveau symbole de l'opposition à sa politique.
Le président Donald Trump va se retrouver pour la première fois avec une véritable opposition, parce que jusqu'ici, il avait, pendant les deux ans qui viennent de s'écouler, il avait au fond tous les pouvoirs, c'est-à-dire que les deux chambres de parlement, le Sénat, la Chambre des représentants, était de la même couleur républicaine et même républicaine trumpiste. On peut compter que le pouvoir judiciaire représenté par la Cour suprême était également tout à fait dans son camp. Et pour la première fois, une des branches du législatif, une branche importante, va se trouver en mesure de contrôler l'action du président Trump et peut-être même de contrôler désormais a posteriori, si on veut, ce qui a déjà eu lieu. On parle déjà de la possibilité de demander à voir sa feuille d'imposition. On n'en est pas encore là, mais voilà le genre de choses qui peuvent compliquer les deux années qui vont suivre.
Pour Denise Beaver, qui est juriste à Bakersville, en Californie, ces élections de mi-mandat confirment la profonde hostilité des adversaires de Donald Trump à sa présidence.
C'est un rejet total de tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il dit, le président. Il y a une haine incroyable contre lui, et on peut dire une haine incroyable qu'il a pour les démocrates. C'est un moment dans l'histoire de notre pays, c'est un moment vraiment bizarre.
Denise Beaver, juriste à Bakersville, en Californie. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.